C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire sur les finances personnelles avec le syndic Pierre-Paul Belzile-Lacaze. Bonjour Pierre-Paul.
Bonjour Guy.
Pierre-Paul, aujourd'hui, on va parler de fraude. Alors, il y a plusieurs attrapes, on le voit presque au moins une fois par semaine dans les médias. Si on y allait d'abord, les informations qui sont recherchées par les fraudeurs, là, c'est quoi exactement?
Oui, ben ça va des informations aussi simples que le nom, le prénom et l'adresse, des informations assez de base qu'on donne souvent. Ça reste que juste avec ça, les fraudeurs peuvent faire un bout de chemin en se faisant passer pour nous. Et ça va évidemment à d'autres informations comme, évidemment, le numéro d'assurance sociale qu'on ne donne jamais. Des informations aussi comme, exemple, le numéro de permis de conduire où on jette une carte puis on laisse de l'information dessus ou sur des lettres qu'on reçoit. Donc, bien déchiqueter ça parce que ce soit... le nom de jeune fille de notre mère qui va être utilisé dans certains mots de passe, c'est le genre de choses qu'il faut pas donner non plus. Le nom d'utilisateur, les mots de passe de services en ligne, tu sais, il y a toutes sortes d'éléments assez simples qu'il faut pas écrire non plus chez nous. Il y a des gens qui se sont fait déjà voler, puis ils écrivent l'information chez eux quelque part sur un papier. Ben là, on vient de donner notre mot de passe. Mm-hmm. Fait que, il y a plusieurs de ces informations-là qui sont assez importantes à protéger.
J'ai quelques mots de passe. Moi, j'ai un sous-dossier, du sous-dossier, du triple sous-dossier pour le cacher. Est-ce que c'est une bonne idée?
C'est sûr que d'avoir un support dans l'informatique, ben c'est des chances qu'on puisse se faire pirater. Quelqu'un qui rentre dans notre ordinateur peut aller voir nos fichiers. Évidemment, si plus qu'on a de fichiers, ben plus c'est compliqué pour un fraudeur d'y aller. De se faire des mots de passe avec soi-même, tu sais, moi personnellement, la technique que j'utilise, c'est de marquer quelque chose qui me fait penser à mon mot de passe sans marquer le mot de passe. Donc, c'est le genre d'éléments importants ou d'avoir des phrases passe qui sont faciles à retenir. Exemple, une phrase « Je m'en vais au marché acheter du blé », exemple aussi simple que ça, avec des majuscules ou des lettres qui remplacent des chiffres. Ben, d'avoir un mot de passe très long, donc une phrase passe qui est facile à retenir, ben, c'est des bonnes façons parce que sinon, c'est vrai qu'on vire fou, on veut absolument écrire ça quelque part, mais il demeure un danger d'écrire ces informations-là.
Et c'est quoi les techniques qui rentrent dans notre ordinateur? Est-ce qu'il y a d'autres façons de nous hameçonner?
Ben, tu sais, quand on parle avec quelqu'un, là, des fois, on se fait appeler, on se fait poser des questions, puis on doute de la validité d'une personne, là. Bon, ben, il y a évidemment plusieurs techniques comme si on sent qu'on se fait complimenter un peu trop par rapport à la situation, c'est le genre de choses, des fois, qui peut éveiller les soupçons. Des tactiques de vendeur très, très agressives, là, du genre, vous en avez besoin, ou c'est quelque chose qu'il faut régler aujourd'hui, madame, sinon vous allez avoir un problème. Quelqu'un qui nous fait sentir coupable aussi de dire non, soit que ce soit dans des échanges courriels ou que ce soit au téléphone. La culpabilité, c'est un moteur très, très fort chez les gens. Puis ces gens-là, là, ils font de l'ingénierie sociale. Faut pas s'en faire avec ça. Là. Beaucoup de gens se font avoir. Puis c'est pas parce qu'on est plus niaiseux qu'un autre. C'est que c'est vraiment des spécialistes du comportement humain. Les gens qui vous promettent des cadeaux en retour, hein, il y a plusieurs fraudes qui sont reliées à ça, ben enregistrez-vous à ça maintenant, puis vous recevrez tel élément plus tard. Ça, c'est des tactiques très courantes. Se faire étourdir aussi par beaucoup de questions. On se fait poser une question, on est en train de répondre, puis là, tout de suite, une autre question qui arrive. Puis là, des fois, on perd le fil, puis on se rend pas compte qu'on est en train de donner de l'information qu'on n'aurait jamais donnée dans un temps normal. Mais vu qu'il y a une urgence, il y a une quantité d'informations qui circulent en même temps, ça peut nous pousser à donner de l'information. Évidemment, c'est des informations, c'est des techniques qui sont utilisées pour profiter de nous. Donc, ce que je suggère aux gens par rapport à ces techniques-là spécifiques, ben c'est tout simplement de prendre son temps. Il n'y a jamais d'urgence. On est capable d'attendre 2-3 jours pour régler un problème. S'il y a une urgence qui est créée, c'est rare que cette urgence-là est réelle.
Est-ce que je peux compter une petite aventure qui m'est arrivée? C'est quelqu'un qui m'appelle en parlant anglais en disant qu'il m'appelait du Nevada et que il y avait quelqu'un qui avait essayé de fronder mon compte Amazon pour 7 000 $. Et là, beaucoup de pression rapide. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais vous rappeler. J'ai raccroché. Finalement, je suis allé voir le numéro et ça fait partie des ce qu'ils appellent les automatic callers, des machines automatiques pour nous appeler finalement pour essayer de nous attraper.
Ouais, ben c'est effectivement ce que t'as fait d'aller vérifier, refermer un appel puis vérifier par une source externe, que ce soit ce que t'as vérifié ou que ce soit aller voir notre compte Amazon directement voir s'il y a pas un problème après l'appel. Si c'est un appel, exemple d'une banque, ben on raccroche, on demande le numéro de poste de la personne. on rappelle le numéro de la banque que nous-mêmes avons été chercher sur Internet. À ce moment-là, on s'assure que on parle vraiment avec une bonne personne. Fait que ce que tu as fait, c'est une des façons de valider effectivement qu'on parle à quelqu'un de légitime. Là.
Ben, j'ai vérifié mon compte Amazon et ma carte de crédit, il n'y avait rien. Fait que je dis, le problème est réglé. Ah, si vous êtes victime, y a-t-il des signes qu'on peut développer pour se rendre compte qu'on est vraiment victime d'une fraude?
Ben oui, évidemment. C'est sûr que tout ce qui touche à l'argent, donc vous recevez un appel d'un créancier qui vous demande de payer une dette que vous avez aucune idée d'avoir ou qui vous demande de payer une dette à une banque que vous avez pas d'affaires là, ça c'est un des signes qu'on voit souvent. Si vous recevez à la maison une lettre ou par courriel une lettre de refus de demande de crédit, ça peut être l'information comme quoi quelqu'un a tenté de faire une demande de crédit à votre nom. Donc ça, faut être vigilant à ça. Faut pas juste se dire ah ben ça c'est pas à moi ça jeter ce papier là. Faut vraiment enquêter un peu plus en parlant avec l'institution financière. Si ça arrive du jour au lendemain que vous recevez plus vos relevés bancaires ou vos cartes ou des informations comme ça importantes, des documents qu'on reçoit plus, ben ça peut vouloir dire que quelqu'un a fait changer l'adresse sur notre compte, puis là, il peut à ce moment-là communiquer avec eux, puis éventuellement peut-être mettre d'autres comptes là-dessus, qui fait que là, vous vous trouvez à être responsable de comptes qui n'est pas à vous. Ou évidemment, ben les classiques là, d'avoir des appels ou des courriels là avec un lien à cliquer. Toujours faire, tu sais, avec les courriels, toujours faire attention. Le nombre de fautes qu'on va voir dans un courriel, la personne qui nous appelle, justement la langue aussi. Hein, quand nous autres, l'avantage, c'est que la plupart des fraudes se font en anglais, les fraudes massives. Donc, on a quand même un avantage à ce niveau-là. Quand le français est mal écrit, quand les lettres viennent de loin, quand il n'y a pas de façon facile de valider l'information ou que les logos ont l'air faux, c'est tous des signes qu'il faut faire attention.
Ben Pierre-Paul, on va compléter la chronique là-dessus, mais on se retrouve dans deux semaines. Mais là, on va parler des dommages financiers, des dommages moraux, tout ce que ça peut entraîner quand on est victime de fraude.
Effectivement. Merci, Guy.
Au plaisir.